Bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans des extraits de « Les roses ont menti ». C'est un récit très personnel qui nous emmène à Montigny-lès-Metz dans les années 50, début 60. On part explorer des souvenirs d'enfance, en fait. Une Lorraine d'après-guerre vue par un jeune garçon.
Oui.
L'idée, c'est de saisir un peu l'atmosphère de l'époque, de ce lieu. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la force de certaines images.
Ah oui ?
Comme la voie ferrée décrite comme un « fleuve des rails ». Ou alors, plus étonnant, cette mer de moutons qui envahit la rue la nuit. C'est assez saisissant.
Oui, c'est vrai, ces images donnent tout de suite une couleur très particulière. Et l'espace, le lieu, c'est vraiment central dans ce texte. La rue Saint-Ladre, les casernes juste à côté, la voie ferrée qui est omniprésente.
C'est plus qu'un décor, on dirait.
Ah oui, clairement. Ça semble vraiment délimiter le monde de l'enfance. On sent bien la différence qu'il fait entre le vieux Montigny et le nouveau Frescati. C'est même marqué physiquement par les lignes de trolleybus, le 1 et le 2.
Et ce cadre de vie, le jardin qui est souvent inondé, la maison familiale avec ses pilastres, comment est-ce que ça façonne sa perception, à votre avis, au-delà du simple décor physique?
Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cet espace physique il structure vraiment sa mémoire et son identité qui se construit. La rue, par exemple, c'est un peu un mini-monde où il observe déjà les dynamiques sociales. Et le grenier, d'où il voit les rails, c'est presque un poste d'observation sur le monde extérieur, quoi. L'environnement proche, c'est sa première grille de lecture du monde, en fait.
Et ces dynamiques sociales, on les retrouve bien quand il parle des différents groupes. Il y a les Américains.
Oui.
Un peu à part, avec leurs grosses voitures, leurs habitudes, qui sont décrites avec un mélange de curiosité et de stéréotypes un peu amusants, comme l'histoire des fléchettes sur les portes.
Ah oui, cette anecdote.
Une présence très visible, mais en même temps un peu distante, non? Presque inaccessible.
Tout à fait, c'est ça. Visible mais distante. Et à côté, on a les habitants des colonies, les cités cheminotes.
Oui.
Eux aussi, ils sont vus comme un groupe à part. Il y a même des préjugés qui sont rapportés sur leur façon de parler français, soi-disant très mal.
Pourtant, c'est aussi là qu'ils trouvent des copains de jeu, c'est ça?
Exactement. Donc ça montre bien la stratification sociale de l'époque, même à l'échelle d'un quartier. Les relations complexes entre Lorrains, Américains, cheminots.
Ça soulève la question de la perception de l'autre, déjà à cet âge-là, dans une communauté qui se reconstruit après la guerre. D'ailleurs, en parlant de reconstruction, les traces de la guerre, elles sont là, discrètes mais bien présentes. Les maisons abîmées, comme des dents carriées, les flèches peintes sur les murs pour indiquer les caves.
Oui, c'est très visuel.
Et puis, il y a cette anecdote un peu étonnante des parents qui auraient été en prison au Grand Séminaire pendant la guerre.
Oui, parce qu'ils servaient de lieu de détention à l'époque. Ces détails montrent une société qui porte encore les marques du conflit, mais qui est aussi tournée vers ce que l'auteur appelle le progrès.
Le mazout, le chauffage central, même si c'était limité, le frigo.
C'est ça. Il y a une tension intéressante. On adopte ces nouveautés, on écoute la radio avec passion. La famille du raton, reine d'un jour, ça devait être quelque chose.
Ah oui.
Mais en même temps, il y a une certaine méfiance qui reste. Par exemple, face à la télé qui arrive.
C'est vraiment la transition vers la société de consommation qu'on voit se dessiner. Et l'école alors, elle apparaît comment dans ses souvenirs?
L'école, c'est un lieu ambivalent. Il y a des figures marquantes, comme l'instituteur, M. Michel, ou M. Paradès et sa leçon sur les vases communicants.
Ah oui.
Mais il y a aussi la peur des grands, l'humiliation des punitions, les collés.
C'est le lieu de l'apprentissage, bien sûr, mais aussi celui où l'on apprend les règles sociales, parfois un peu durement, j'imagine.
Exactement. C'est un autre espace où se jouent les hiérarchies, les premières expériences de l'injustice, ou de l'amitié aussi, bien sûr. Et face à ce monde parfois un peu rude, il a une échappatoire majeure pour lui. La lecture. Ah, la lecture, oui.
Une passion dévorante, on dirait. Jules Verne, Jack London, Stevenson. Il découvre même stupéfait que les livres peuvent exister en plusieurs exemplaires, avec l'histoire de Bibi Fricotin.
Oui, c'est un moment clé, ça. La lecture, c'est plus qu'un passe-temps. C'est vraiment présenté comme un refuge, un moyen d'explorer d'autres mondes, bien loin de Montigny. Mais c'est aussi essentiel pour se construire, pour développer son imaginaire.
Une vraie bouée, comme vous disiez.
C'est ça.
Et la famille, bien sûr, elle est au centre. Avec des figures importantes comme les grands-parents, l'instituteur côté maternel, le cheminot côté paternel. Leurs histoires personnelles, parfois assez fortes, comme celle du grand-père qui tire sur un Américain ou la photo en uniforme allemand qui est cachée. Ça nourrit l'imaginaire familial.
Oui, et à travers ces récits est aussi la question du bilinguisme dans la famille. Le français, l'allemand, le dialecte lorrain, c'est toute la complexité de l'identité lorraine qui ressort.
Une identité façonnée par l'histoire, avec un grand H, les changements de frontières, de langue.
C'est ça. C'est très palpable dans le texte, cette histoire régionale très particulière.
Et la vente de la maison de la rue de la Prévôté, ça semble marquer une rupture, un peu la fin de cette époque pour lui.
Oui, une rupture symbolique avec ce passé, cette mémoire des lieux.
Finalement, qu'est-ce que ces fragments de vie nous disent, au fond ?
Mais ils nous montrent comment une identité se construit, tissée très serrée avec les lieux, les gens qu'on rencontre, les histoires de famille, et puis les grands événements de l'histoire. Ce n'est pas juste une collection d'anecdotes, hein ?
Non, c'est plus que ça.
C'est une sorte de cartographie très sensible d'un monde et d'une époque en plein changement, mais vue à hauteur d'enfant.
Une plongée vraiment très riche donc, dans ce quotidien d'après-guerre en Lorraine. On sent bien ce mélange de tradition et puis l'arrivée de la modernité, quoi.
Tout à fait. La construction d'un individu dans un contexte très, très spécifique.
Et ça nous laisse peut-être avec une question. Au-delà du charme un peu nostalgique de ces souvenirs, comment est-ce que ces empreintes, celles des lieux, des histoires de notre enfance, comment est-ce qu'elles continuent, peut-être sans qu'on s'en rende compte, à influencer notre regard sur le présent et même la façon dont on raconte notre propre histoire? C'est une réflexion sur la persistance de ces traces, en fait. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette exploration.